Bienvenue dans Droit dans l'Immo, un podcast proposé par Lefèvre Dalloz.
Bonjour, je suis Laurence Guittard de la rédaction Lefèvre Dalloz. Aujourd'hui, je reçois Sidonie Fraîche du Peyra, avocate associée spécialisée en immobilier résidentiel et aménagement privé au sein du cabinet LPA. Dans un précédent podcast, Hélène Chloé nous a parlé des nouvelles contraintes en matière de logement qui figurent dans le futur PLUB de Paris. Nous continuons notre exploration des dispositions de ce document concernant le logement. Aujourd'hui, nous allons voir que le futur PLU adopte une définition du logement social qui lui est propre. Nous parlerons également des différents montages contractuels possibles pour les opérateurs privés. Bonjour Sidonie.
Bonjour Laurence.
Le PLU de Paris adopte une définition du logement social distincte de celle de la loi, celle qui figure dans le Code de la construction et de l'habitation. En quoi sont-elles différentes ?
Le logement social est défini au Code de la construction et de l'habitation à l'article L302-5 à travers 6 items limitatifs. Le nouveau PLUB renvoie à l'article L302-5 mais opère plusieurs exclusions ou restrictions. Ce qu'il faut retenir, c'est que le PLUB se montre plus exigeant avec deux objectifs, la pérennité du logement social et la faveur faite au logement social locatif, plutôt qu'à l'accession à la propriété. Quelles sont les principales différences entre le Code de la construction et de l'habitation et le PLUB ? Tout d'abord, le PLUB exclut les logements en location-accession. Le PLUB exclut ensuite l'usufruit locatif social. Il sera toujours possible de réaliser de l'usufruit locatif social à Paris, mais ça ne sera pas décompté dans les quotas de logements sociaux. Ensuite, le conventionnement reste ouvert, mais la durée minimale de conventionnement attendue est de 40 ans, là où le Code de la construction et de l'habitation fixe une durée minimale de 15 ans. C'est donc nettement plus exigeant. Pour ce qui est du BRS, le bail réel solidaire dont Hélène nous a parlé pour montrer la faveur qui est faite à cet outil juridique, là également, le PLUB se montre plus exigeant avec une durée minimale de 50 ans, là où le Code de la construction et de l'habitation impose un minimum de 18 ans. Pérennité et faveur au locatif plutôt qu'à l'accession sociale.
Il y a aussi des différences entre le CCH et le PLU de Paris concernant le logement locatif intermédiaire.
Rappelons tout d'abord que le logement locatif intermédiaire n'est pas comptabilisé dans le logement social. C'est une précision qui est importante quand on a en tête les débats actuels sur le décompte du quota des logements sociaux et l'intégration ou non du logement intermédiaire. Le PLUB est ensuite original sur le sujet sous deux aspects. D'une part, il exclut les logements intermédiaires en accession qui ne seront pas décomptés dans les pourcentages exigés au titre du logement intermédiaire. Comme pour le BRS, il est bien sûr possible de faire de l'accession sociale intermédiaire, mais elle ne sera pas prise en compte. Ensuite, la durée d'engagement exigée des opérateurs est de 20 ans minimum, là où le Code de la construction et de l'habitation ou les textes fiscaux applicables visent des engagements minimaux de 9 ans. On retrouve pérennité et faveur faite aux locatifs au détriment de l'accession à la propriété.
Le bail réel solidaire se distingue aussi dans le PLU.
Oui, en effet, Laurence, encore une originalité sous deux aspects. La première, c'est que le BRS n'est pas qualifiant au titre des logements locatifs sociaux tels qu'ils sont définis par le PLUB et donc ils ne seront pas décomptés lorsqu'un pourcentage de logements locatifs sociaux est imposé. Ensuite, le BRS devra être conclu pour une durée minimale de 50 ans, là où le Code de la construction et de l'habitation exige 18 ans. Ce qui traduit, une fois encore, une exigence de pérennité du logement locatif social.
Quels sont les montages ouverts aux opérateurs privés ?
Le premier réflexe d'un opérateur privé pour répondre aux exigences de mixité sociale est usuellement de procéder à une vente en VEFA. C'est un outil qui sera assez mal adapté à Paris, dans un secteur contraint, avec des immeubles complexes, où il ne sera pas aisé d'isoler des logements, sauf à mettre en copropriété, pour les vendre en VEFA. Il faut donc réinventer et ouvrir les schémas qui sont étudiés par les opérateurs privés, et il en existe quelques-uns qui leur sont ouverts.
Il y a le prêt locatif social, PLS.
C'est celui qui est le plus connu et déjà bien pratiqué par les opérateurs privés. Ayons en tête à ce sujet que les conventionnements PLAI et PLUS ne sont pas ouverts aux opérateurs privés. Ils sont réservés aux opérateurs sociaux. Le PLS devra avoir une durée minimale de 40 ans, là où le Code de la construction et de l'habitation impose des durées plus courtes de 9 ans. C'est un outil qui est aisé, bien connu, qui ne nécessite pas l'intervention d'un opérateur tiers type bailleur social ou encore association agréée. Donc l'opérateur privé peut souscrire un PLS seul et gérer ensuite seul les actifs. Il souscrira un prêt locatif social qui adosse le conventionnement, qui est nécessaire, et c'est une opération qui sera bien adapté lorsque l'opérateur privé envisage de réaliser des travaux. S'il n'envisage pas de réaliser des travaux, c'est un mécanisme qui ne sera pas forcément bien adapté, qui nous conduit à en chercher d'autres.
Les opérateurs peuvent conclure une convention avec l'ANA ? Plusieurs montages sont possibles dans ce cas ?
C'est une bonne alternative, précisément lorsque l'opérateur privé ne souhaite pas réaliser de travaux. Le conventionnement ANA est un conventionnement sans prêt, le cas échéant avec une subvention, mais pas obligatoirement. Il peut être souscrit sans travaux et portera sur des logements sociaux ou très sociaux. Les grilles de revenus et de loyers de l'ANA se distinguent des grilles de l'État, que l'on connaît sous la lecture PLS, PLAI, PLUS. Lorsque l'on conventionne avec l'ANA, les deux conventionnements possibles sont social ou très social, ce qui recoupe en partie l'approche de l'État, mais sous deux catégories exclusivement. Le conventionnement ANA peut également s'inscrire dans ce que l'on nomme l'IML. L'intermédiation locative est aujourd'hui très encouragée par les pouvoirs publics qui souhaitent la voir se développer au niveau national. Il y a eu déjà quelques expérimentations à Paris et en région parisienne. Elle peut prendre deux formes et s'opère nécessairement avec un partenaire social agréé spécifiquement pour développer l'IML. Le partenaire se verra consentir soit un mandat, soit un bail par le propriétaire privé. Et c'est donc lui qui donnera en location à un public que l'on observe pour le moment très social, mais le véhicule pourrait également accueillir un public qualifié de simplement social dans le conventionnement ANA. C'est un schéma qui a la faveur de certaines collectivités locales, qui est potentiellement un peu plus complexe pour un opérateur privé puisqu'il doit s'adjoindre les services d'un opérateur social spécialisé. Et ce que l'on observe pour le moment, mais il est trop tôt pour en tirer un principe ou une généralité, c'est que l'IML s'adresse à un public très social et donc pour l'opérateur privé, que ce soit par le biais d'un mandat ou par le biais d'un loyer, générera des revenus moindres.
D'autres montages sont ouverts aux investisseurs privés avec le bail réel solidaire.
C'est un peu un miroir aux alouettes, car le BRS suppose le recours à ce que l'on appelle un OFS, organisme foncier solidaire. Le BRS est un bail à construction plus élaboré, avec un bailleur et un preneur. Le bailleur, qui est propriétaire du terrain ou de la construction, sera nécessairement un OFS. La place de l'opérateur privé dans ce montage ne peut être que celui de preneur. Un opérateur privé qui souhaite développer une opération en mixité sociale devra donc intégrer l'OFS en tant que propriétaire ou d'une partie du terrain ou, à Paris, plus vraisemblablement, une partie de l'immeuble qui préexiste. Cela nécessite donc de mettre en place une organisation foncière qui sera souvent une copropriété ou une volumétrie, ce qui est une contrainte pour les opérateurs privés importante. Si le BRS a manifestement la faveur du PLUP, il ne sera pas aisé pour l'opérateur privé de l'intégrer dans son montage.
Pour synthétiser, quels sont les montages du plus social au moins social ?
Le conventionnement PLS sera toujours le moins social. Si la ville a des exigences sociales plus marquées, l'opérateur se dirigera davantage vers une convention ANA, le cas échéant dans le cadre d'un IML.
Enfin, il y a le logement locatif intermédiaire.
Le logement locatif intermédiaire, rappelons-le une fois encore, c'est une clarification qui est utile dans le débat actuel, n'est pas comptabilisé avec le logement social. Il fait l'objet d'une comptabilisation distincte, notamment dans les objectifs qui ont pu être rappelés par Hélène dans le précédent podcast. Là aussi, il participe d'un objectif de mixité sociale, puisqu'il s'intercale entre le logement libre et le logement social. Ce logement locatif intermédiaire peut être opéré par un investisseur privé sans l'intervention d'un bailleur social ou d'un quelconque partenaire. Le bailleur prend un engagement de respecter des plafonds de revenus et des plafonds de loyer pendant une durée minimale de 40 ans à Paris, durée renforcée, et durée pendant laquelle ces deux grilles de revenus et de loyer devront être respectées. À Paris, le logement intermédiaire ne sera que locatif. L'accession à la propriété intermédiaire, qui est un dispositif qui est développé dans le Code de la construction et de l'habitation, ne sera pas comptabilisé au titre des objectifs du PLUB au titre du logement intermédiaire.
Et dans ces différents montages, le locataire est toujours traité de la même manière ?
Le plus souvent, le locataire sera titulaire d'un bail qui est soumis à la loi de 1989, comme s'il était dans le parc privé, avec un loyer minoré et des conditions de ressources pour y accéder. De manière plus résiduelle, dans le cadre de l'IML, ce sont des contrats plus courts qui sont mis en place, parce que ces logements sont destinés à des familles qui vont rejoindre un parcours résidentiel plus classique et qui sont là de manière temporaire en attendant un logement plus pérenne. Cela fait une différence potentiellement importante pour l'investisseur privé, car les beaux lois de 89, à la fin du montage, c'est-à-dire à la fin du conventionnement, se poursuivront probablement avec l'opérateur. Pourquoi probablement ? Cela dépendra des régimes et du conventionnement, mais c'est un point d'attention. Les conventions, en revanche, de courte durée, le plus souvent, s'achèveront avec le montage et l'opérateur récupérera un immeuble libre d'occupation.
Pour conclure, certains montages sont-ils plus intéressants que d'autres pour les opérateurs privés ?
Il n'y a pas de réponse unique. C'est un travail de dentelle qui s'opère opération par opération. On l'a vu, certains montages vont nécessiter une organisation foncière spécifique. Ils ne seront pas possibles dans certains ensembles immobiliers où l'opérateur ne souhaitera pas mettre en copropriété. Ça pourra être adapté dans d'autres cas, dans des cas où on arrive à isoler le BRS dans un volume ou en faisant une division cadastrale. Par ailleurs, pour certains montages, on l'a vu, le recours à un partenaire social est nécessaire. Ça pourrait être alternativement une contrainte ou au contraire une opportunité. Un opérateur privé peut souhaiter s'adosser à un opérateur social qui lui permettra de gérer ce volet du programme. Parfois, au contraire, il préférera en avoir la maîtrise. Il n'y a donc pas de réponse unique. Cela dépend de l'opération et du profil de l'investisseur.
Merci Sidonie.
Merci Laurence.